Belle soirée à l'écoute d'Europe 1, il est 22h. C'est l'heure du journal, Simon Rubin.
Je vois bien qu'il y a des manœuvres qui ne vont pas dans le sens de mes convictions. Ça n'est pas possible pour moi de faire ce type d'alliance.
Il s'appelle Lionel Royer-Perreaux et il est le deuxième candidat Les Républicains à la mairie de Marseille. Oui, deux candidats et ni l'un ni l'autre n'étaient tête de liste à la base. Alors comment en est-on arrivé là? Eh bien, on va vous expliquer. Dès le début de ce journal, on va aussi vous révéler ce qu'Emmanuel Macron a confié à la presse quotidienne régionale. Interview à paraître demain matin. Retraite, économie, grand chantier et remaniement. Jean-Rémy Baudeau a déjà lu cette interview. Airbus appelle à l'aide la France et l'Allemagne pour sauver les emplois français. À Toulouse, où le plus gros du plan social est prévu, les salariés sont dans l'angoisse.
Il y a quelques mois, les chiffres, tout était en vert. Et là, du coup, c'est l'ascenseur émotionnel. On passe de tout à rien et c'est très dur moralement.
Dans votre journal également, on va vous raconter comment les polices françaises et néerlandaises ont infiltré la messagerie qu'utilisent d'énormes réseaux criminels. Et puis du sport et Roland-Garros qui aura lieu fin septembre et avec du public.
20 000 au début du tournoi, 10 000 le jour de la finale.
Un siège sur deux en tribune et des billets en vente dans les prochains jours. La Bourse de Paris, elle termine ce soir en hausse à 5 049 points. Claire Lemaître de Boursier.com nous dira comment s'est passée cette journée sur les places financières du monde. Et comme chaque soir, 22h20, vous avez rendez-vous avec l'interview écho d'Emmanuel Duteil. Emmanuel qui reçoit ce soir Samy Vichel, président de Fauchon.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Quel choix politique, quelle orientation pour le pays en cette fin de quinquennat? Voilà quelques-unes des questions que l'on se pose ce soir et questions auxquelles le président Emmanuel Macron répond dans la presse quotidienne régionale. Jean-Rémy Baudeau, vous l'avez lu cette interview. Alors, beaucoup de questions auxquelles Emmanuel Macron répond avec gravité.
Oui, Simon, sur la crise du Covid, le président appelle les Français à la prudence. Il ne faut rien exclure, dit-il en parlant d'un reconfinement général. Nous nous préparons à tout, précise le chef de l'État. Concernant sa promesse de se réinventer, il affirme « Je crois que le cap sur lequel je me suis engagé en 2017 reste vrai ». Mais Emmanuel Macron prévient, la rentrée sera difficile. Il nous faut donc dessiner un nouveau chemin. En ligne de mire, la crise post-Covid, le risque de chômage et le président d'annoncer ses pistes pour, je cite, une reconstruction économique, sociale, environnementale et culturelle. Parmi ses grands chantiers, il cite le Ségur de la santé, le grand âge ou la jeunesse. Emmanuel Macron, plus direct qu'à l'accoutumée, je vais être très clair avec vous, il y a des plans sociaux. Il y en aura. Emmanuel Macron qui promet de ne pas augmenter les impôts, de travailler une taxe carbone aux frontières de l'Europe et surtout il relance la question de la retraite. La réforme est-elle à jeter? Non, ce serait une erreur. Il promet néanmoins de nouvelles discussions et de transformer le projet qui avait fait tant polémique.
Et Jean-Rémy, le président donne-t-il des précisions sur son futur remaniement?
Il brosse en tout cas le portrait robot de son futur gouvernement, la relance de l'économie, la protection sociale, l'ordre républicain, la souveraineté européenne. Mais un point attire notre attention ce soir, Simon. Une formule qui a été retirée entre la première publication de l'interview sur les sites de presse et la version finale qui a été relue par l'Élysée. À la question « Est-ce de l'histoire ancienne avec Édouard Philippe ?», le président a répondu « Au contraire ». Un petit bout de phrase qui a été gommé de l'interview finale et qui relance évidemment les spéculations sur le départ ou non du Premier ministre.
Jean-Rémy Baudeau qui a l'œil du service politique d'Europe 1. À Marseille, le feuilleton des municipales est très loin d'être fini. Un samedi aura lieu le conseil municipal qui doit élire le ou la future maire de la ville. Alors à gauche, Michel Rubirola est arrivé en tête, majorité relative à l'issue du second tour. Et à droite, ça bouge. Martine Vassal s'est retirée de la course aujourd'hui au nom de l'Union des droites et au profit du député Guy Tessier, 75 ans, qui se voit en sauveur de la droite.
Nous allons nous trouver dans une situation difficile, très difficile. Et je dois vous dire que si je suis élu, je serai un candidat de rassemblement. Il ne peut pas être question d'autre chose. Je ne serai pas un maire autoritaire. Je souhaite retrouver une ville apaisée, une ville où la violence s'éteigne. Et où on continue à pouvoir vivre heureusement.
Guy Tessier, qui se voyait déjà maire lorsqu'il prononce ces mots, on est en milieu d'après-midi, mais deux heures après, un deuxième élu, Les Républicains, sort des rangs et annonce lui aussi sa candidature. Lionel Royer-Perreaux qui refuse un candidat de droite qui se lie avec l'extrême droite.
Je vois bien, je sens bien, je perçois bien qu'il y a des manœuvres qui ne vont pas dans le sens de mes convictions. Parce que la candidature annoncée de Guy Tessier pose un problème d'éthique, puisque nous savons les uns et les autres la porosité et le lien ténu qu'il peut avoir avec le Front National. J'ai la connaissance de contact. Pour moi, c'est une ligne qui ne peut pas être franchie. Ça n'est pas possible pour moi de faire ce type d'alliance.
Propos recueillis par Nathalie Chevance. Quatre policiers de la compagnie de sécurisation et d'intervention de Seine-Saint-Denis mis en examen aujourd'hui, notamment pour atteinte arbitraire à la liberté individuelle. Ils sont soupçonnés d'avoir procédé à des contrôles d'identité et des interpellations non conformes à la légalité. Trois d'entre eux ont par ailleurs été mis en examen pour violence volontaire en réunion. La préfecture annonce ce soir la dissolution de cette compagnie. Elle est sous le feu des projecteurs depuis plusieurs jours maintenant. Accusée d'avoir fait pression sur l'enquête visant François Fillon, la procureure générale de Paris a dû s'expliquer aujourd'hui. Catherine Champ-Renaud était interrogée par les députés d'une commission d'enquête. Chloé Triomphe, elle, réfute toute pression politique.
Oui, et sur un ton assez ferme d'ailleurs, elle a rappelé aux parlementaires le cadre législatif voté par eux et par leurs prédécesseurs qui permet justement à la hiérarchie judiciaire d'avoir des remontées d'informations sur les dossiers sensibles, cadre légal qui interdit aussi dans l'autre sens, dans le sens descendant, de donner des instructions. Catherine Champ-Renaud se défend d'avoir subi ou répercuté la moindre pression, y compris dans l'affaire Fillon.
D'abord, je voudrais dire avec force que je n'ai reçu dans l'affaire Fillon, comme dans tous les autres dossiers relevant de mon contrôle hiérarchique, aucune instruction du pouvoir exécutif et qu'ainsi je n'ai jamais, jamais relayé une demande du garde des Sceaux ou du pouvoir exécutif pour influer sur le traitement des procédures.
Et Chloé, la commission d'enquête a aussi interrogé aujourd'hui le président du tribunal pour lui demander pourquoi il a choisi de confier le dossier au juge Tournaire.
Oui, ce juge détesté par la droite pour sa pugnacité qu'il a notamment conduit à renvoyer devant un tribunal correctionnel Nicolas Sarkozy dans l'affaire Big Malion. Jean-Michel Ayat a donc défendu son choix en expliquant comment, en conscience et par élimination parmi les 9 magistrats possibles, par souci d'équilibre aussi des dossiers sensibles, eh bien il en est venu à lui confier, à lui et à 2 autres magistrats, cette affaire. Et puis en rappelant aussi que cette désignation n'avait fait l'objet d'aucune contestation de la part des avocat du couple Fillon.
Chloé Triomphe du service police-justice d'Europe 1. Nouveau chapitre qui s'ouvre dans l'affaire dite de la sextape impliquant le footballeur Karim Benzema. Ce soir, le parquet de Versailles demande un procès contre l'attaquant. Karim Benzema est accusé de complicité avec des maîtres chanteurs qui ont tenté d'extorquer de l'argent à un autre joueur de l'équipe de France, Mathieu Valbuena, sous la menace de la diffusion d'une vidéo intime. 2400 emplois à la production, près d'un millier d'emplois au siège, plus de 200 dans les filiales. La crise frappe très durement Airbus, qui annonce au global 5000 suppressions de postes en France d'ici à l'été prochain. À Toulouse, capitale de l'aéronautique en France, c'est évidemment l'angoisse. Benjamin Péter, vous avez rencontré aujourd'hui les employés désemparés face aux détails de ce plan annoncé aujourd'hui.
Oui, ce sont des cols bleus, des compagnons comme on les appelle chez Airbus, qui travaillent ici sur les chaînes d'assemblage et qui pensaient avoir un avenir tracé et qui doutent pour la première fois à l'image de Fabien. Il est intérimaire depuis 5 ans, il devait être embauché, son entretien était calé pour avril, mais le confinement a tout stoppé et fin septembre, il sait qu'il devra partir.
Je repars de zéro du coup, c'est très dur moralement. Déjà de voir les collègues partir un par un en intérim et du coup l'embauche, l'avoir s'éloigner encore une fois. Il y a quelques mois, les chiffres, tout était en vert, on parlait d'augmentation de cadence et là, du coup, c'est l'ascenseur émotionnel. On passe de tout à rien et c'est vrai que ça devient extrêmement compliqué maintenant.
Même sentiment pour Manuel. Lui est embauché depuis 4 ans, juste à sa sortie du lycée Airbus. Il s'attendait à faire carrière ici, alors cette incertitude sur son avenir, il a beaucoup de mal à la vivre.
On attend, c'est comme une roulette russe, on ne sait pas qui va partir. On se regarde tous entre nous. Les jeunes embauchés, ils se demandent si c'est eux qui vont partir en premier. Le problème, c'est qu'on est qualifié juste pour la mécanique aéro. Du coup, c'est vrai qu'on n'a pas vraiment beaucoup de débouchés. On ne trouvera pas d'emploi chez les sous-traitants ni rien.
Alors les négociations entre les syndicats et la direction doivent s'ouvrir lundi jusqu'à fin octobre. Des syndicats qui demandent qu'il n'y ait aucun licenciement sec et qu'on privilégie les départs volontaires.
Benjamin Péter, correspondant d'Europe 1 à Toulouse. Et ce soir, le président d'Airbus estime que 3500 emplois sur les 15 000 supprimés au total peuvent être sauvés si la France et l'Allemagne apportent leur aide. Les compagnies aériennes qui ont dû annuler des vols à cause du Covid doivent bien rembourser les billets aux clients. C'est la règle et c'est l'Union européenne qui le dit ce soir. La Commission européenne met en demeure 10 pays, dont la France, pour n'avoir pas fait suffisamment appliquer cette règle. Les compagnies aériennes avaient déjà été rappelées à l'ordre et cette fois, Isabelle Horry, ça concerne les packages, hein, ces offres tout compris avec vol, hôtel, voiture, etc.
Et oui, parce que depuis l'épidémie de coronavirus, la France autorise les voyagistes à ne pas rembourser tout de suite ces prestations quand elles sont annulées. À la place, les consommateurs peuvent se voir imposer un bon d'achat remboursable dans un an et demi seulement. Or ça, dit Bruxelles, c'est contraire au droit européen. Je vais être précise pour ceux qui nous écoutent et qui seraient concernés. C'est contraire à la directive européenne de 2015 sur les voyages à forfait. La France doit respecter cette loi européenne. Elle prévoit expressément que le voyageur concerné a le droit d'opter pour un remboursement intégral. Même si c'est seulement l'avion qui est annulé, le voyagiste doit rembourser aussi l'hôtel. Le gouvernement a suspendu l'application de ce texte jusqu'à septembre. Il explique qu'il s'agit de préserver de la faillite de nombreux professionnels du tourisme. Mais les plaintes affluent dans les associations de consommateurs. Ce soir, l'UFC Que Choisir se réjouit d'ailleurs de l'ouverture de la procédure d'infraction contre la France. Ceci dit, attention, ça ne change rien dans l'immédiat. À ce stade, c'est un moyen de pression. On va voir comment le gouvernement réagit. À terme, il risque une plainte devant la Cour de justice européenne.
Isabelle Horry à Bruxelles. Grand tremblement dans le crime organisé. La France et les Pays-Bas annoncent aujourd'hui avoir réussi à démanteler un réseau mondial de communication cryptée utilisé quasi exclusivement par des organisations criminelles. C'est du jamais vu. Un système qui permettait notamment d'organiser le trafic de drogue, des assassinats, le blanchiment d'argent. Et si ce réseau a été démantelé, c'est Salomé Legrand parce que les enquêteurs ont réussi à l'infiltrer.
Et oui, et comme les délinquants ne se doutaient de rien, les policiers ont carrément eu l'impression d'être à leur table, dit l'un d'entre eux. Cette infiltration hors norme a débuté après que la gendarmerie française a décidé de s'intéresser à ces téléphones ultra sécurisés avec double système d'exploitation, pas de géolocalisation possible, autodestruction des messages au bout d'un certain temps ou à distance. Une équipe commune d'enquête européenne a été créée pour exploiter les données de tous ces gros bonnets du crime organisé. Le général Jean-Philippe Lecouf est directeur adjoint de la police judiciaire de la gendarmerie.
À cette échelle, impliquant autant de personnes, c'est véritablement la première fois. On a une vision du segment supérieur de la criminalité organisée, de la façon dont ils travaillent, de la façon dont ils communiquent entre eux, de façon extrêmement claire, puisqu'ils avaient une confiance aveugle dans ces téléphones. Un petit peu comme si on était dans une énorme réunion de criminels qui se parlent entre eux et où on est un petit peu invisible au milieu.
Et quelques 50 000 de ces téléphones étaient en circulation au moment où le réseau s'est rendu compte de l'infiltration le 13 juin dernier. Plus de 100 millions de messages ont quand même été interceptés et vont nourrir des centaines de procédures judiciaires dans le monde entier.
Salomé Legrand. Aux États-Unis, la résurgence de l'affaire Epstein. Jeffrey Epstein, c'est cet homme d'affaires, millionnaire, milliardaire même, soupçonné d'avoir monté un vaste réseau pédocriminel. Il s'était suicidé en prison l'an dernier. Eh bien, aujourd'hui, son ancienne compagne et ancienne collaboratrice, Ghislaine Maxwell, a été arrêtée après des mois de cavale. Elle pourrait avoir eu un rôle dans ce réseau pédocriminel. Les enquêteurs qui annoncent également toujours souhaiter interroger le prince Andrew, membre de la famille royal britannique, hein, le fils de la reine Elisabeth II dans cette affaire. Un mot de Roland-Garros. Roland-Garros, le tournoi de tennis qui a été décalé à cause du Covid, qui se tiendra fin décembre et au début du mois d'octobre prochain. Et Corinne Boulou, on l'a appris aujourd'hui et c'est une bonne nouvelle pour les fans de tennis. Il y aura du monde en tribune.
Oui, il y aura deux fois moins de public donc habituellement, mais il y aura du public contrairement à l'US Open qui est programmé fin août à huis clos à New York. La Fédération française de tennis, organisatrice du tournoi, a obtenu le feu vert des autorités pour accueillir au début du tournoi 20 000 personnes par jour dans le stade, 10 000 le jour de la finale, avec une distinction entre les grands cours pour le placement des spectateurs, comme l'a expliqué tout à l'heure Jean-François Villotte, le directeur général de la FFT.
Sur les cours annexes, il y a un sur deux, le siège neutralisé. Et sur les cours principaux, quand ils achètent des billets ensemble, les gens acceptent au maximum d'être quatre les uns à côté des autres. Donc c'est la simplicité.
Comme au cinéma.
C'est la règle qui est actuellement en vigueur pour les spectacles de type théâtre ou cinéma.
Voilà, le président de la fédération, Bernard Giudicelli, qui a annoncé aussi l'ouverture de la billetterie, donc jeudi prochain, le 9 juillet pour les licenciés, et une semaine plus tard, le 16 juillet pour le grand public, à noter encore que le port du masque sera recommandé aux abords du stade comme dans les gradins, et obligatoire pour se déplacer dans l'enceinte de Roland-Garros.
Corinne Boulou et le tournoi qui débutera bien fin septembre, et non pas en décembre, hein, le 27 septembre pour être exact. On passe à la météo avec vous, Anissa Haddadi. Et demain, le temps sera un petit peu plus ensoleillé.
Oui, ça y est, Simon, il est là, il est de retour, le soleil. Alors, sur l'ensemble du pays, la matinée est assez agréable, hein, demain matin, une matinée ensoleillée avec quelques passages nuageux. Attention tout de même, sur les Alpes du Sud et les reliefs corses, les nuages vont se développer dans la matinée avec des averses qui pourront prendre un caractère orageux jusque sur la Côte d'Azur. Le Mistral dans le sud, il se renforce demain avec des rafales jusqu'à 90 km/h. Vous le savez, le Mistral, il aura tendance à rafraîchir l'atmosphère. Sur l'ensemble de la France, eh bien, le temps est plutôt calme et sec demain. Sur les côtes de la Manche, toujours ce vent d'ouest qui souffle. Les températures matinales, elles sont comprises entre 9 et 15 degrés demain matin jusqu'à 21 au bord de la Méditerranée. Et puis dans l'après-midi, toujours par endroit des températures en dessous des moyennes de saison avec seulement 18 degrés à Boulogne-sur-Mer, 20 à La Rochelle, 22 à Saint-Étienne, Lille et Clermont-Ferrand, 24 pour Paris, Nancy et Limoges, 26 à Carcassonne. Et puis dans le sud, il fait toujours très chaud, des températures de saison avec 28 pour Avignon, 30 à Montpellier et 30 à Nîmes.
Merci Anissa Haddadi. Europe 1. On marque une pause dans un instant. Notre grande page écho, l'invité d'Emmanuel Duteil. Et puis avant, l'actualité des places boursières avec Claire Lemaître. Europe 1. Il est 22h17 et comme tous les soirs, on s'intéresse à la bourse avec vous, Claire Lemaître de boursier.com. Et ce soir, Wall Street clôture en hausse, dopé par les bons chiffres de l'emploi américain et par le groupe Tesla.
Oui, alors Wall Street a perdu une bonne partie de son avance en toute fin de séance, mais le Dow Jones gagne tout de même 0,36%, 25 827 points. Et le Nasdaq signe un nouveau record historique grâce à un gain de 0,52%, 10 207 points. Il était très attendu. Le rapport sur l'emploi en juin a donc apporté de bonnes surprises. Avec 4,8 millions de postes créés aux États-Unis, c'est bien plus que prévu. Et ça a un peu mis de côté les craintes liées à la crise sanitaire. Et puis Tesla continue de faire des étincelles. Le groupe d'Elon Musk a livré plus de voitures que prévu au deuxième trimestre, malgré la crise. 90 650 véhicules électriques au total sur la période. Tesla est depuis hier le constructeur qui pèse le plus lourd en bourse dans le monde devant Toyota et le titre grimpe encore de 8% ce soir. Les valeurs pétrolières sont en hausse également. Elles suivent le pétrole qui gagne un peu plus de 1% au-dessus des $40 pour le WTI.
Et le CAC 40 passe, lui, la barre des 5000 points ce soir.
Oui, forte hausse de 2,5% pour le CAC 40 qui termine à 5049 points. Le marché a été bien aidé par les deux secteurs malmenés ces dernières semaines, l'automobile et les banques. Crédit Agricole, Société Générale et BNP Paribas gagnent entre 4,5% et 5,5%. Le secteur automobile, lui, il est dopé par les espoirs d'une prolongation après l'été de la prime à la conversion, ce coup de pouce pour l'achat d'une voiture neuve. La piste n'est pas exclue. Selon le ministre de l'économie Bruno Le Maire, Renault grimpe de 5% et Peugeot de 3,7%.
Et très forte hausse également ce soir pour le titre Airbus.
Airbus qui fait partie aussi des entreprises qui ont été très secouées en bourse depuis le début de la crise. Le titre gagne 3,5%. Les suppressions de postes chez l'avionneur se précisent. Selon les syndicats, 3500 postes sont concernés à Toulouse et près de 500 à Nantes. Et il y a une seule valeur en baisse ce soir sur le CAC 40. Et c'est Capgemini qui perd seulement 0,1%. Forte hausse ce soir sur les marchés européens. Francfort grimpe de 2,8%. Londres gagne 1,3%. Plus 2,9% pour Madrid. Plus 3,7% pour Milan. Et à Paris, le CAC 40 s'adjuge 2,5% à 5049 points.
Et on peut rappeler que Wall Street sera fermée demain, week-end de 3 jours pour l'Independence Day. Mais la Bourse de Paris, elle sera ouverte. On en parlera avec Didier Hameau. Merci Claire Lemaître. Et c'est l'heure de l'invité éco, Emmanuel Duteil. Vous recevez ce soir le président de Fauchon, Samy Vichel.
Bonsoir Samy Vichel.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes le président de Fauchon, un marque bien connue, traiteur bien connu. Vous faites partie de ces enseignes qui après le déconfinement, ont annoncé que ça n'allait pas fort, ça avait été très compliqué pendant le confinement et donc du coup, vous êtes mis sous la procédure du redressement. Déjà aujourd'hui, quelle est concrètement la situation de Fauchon ?
Alors écoutez, effectivement, on a beaucoup souffert et pour vous dire la vérité, ça fait maintenant 3 ans qu'on souffre place de la Madeleine avec les Gilets jaunes qui ont pris d'assaut la place de la Madeleine 4 samedis de suite au mois de décembre. Qui, pour nous, au mois de décembre, les samedis, comme vous pouvez l'imaginer, ce sont les plus grosses journées de l'année pour Fauchon. On peut réaliser plus de 1000 à 1500 clients par jour pendant ces jours-ci. Tout a commencé un petit peu là, et puis on pensait que la situation allait s'améliorer. Malheureusement, c'est les grèves, où on n'avait ni les clients, et on a eu même du mal à faire venir nos employés pour ouvrir le magasin.
Donc le Covid, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, si je peux m'exprimer ainsi ?
Et voilà. Et le Covid, effectivement, obligé de fermer les magasins, plus de touristes. Il faut savoir que place de la Madeleine, on vit de 2 clients, on va dire 3 clients. Le premier client, ce sont les touristes, parce que ça reste un lieu touristique important de Paris, qui ne sont plus là aujourd'hui. Des hommes d'affaires et des personnes qui travaillent sur la place de la Madeleine, ils sont d'ailleurs tous encore en télétravail, en tout cas pour la majorité. Et de nos Parisiens.
Pour qu'on ait une idée, par exemple, en ce moment, vous êtes en baisse de combien par rapport à un mois de juillet normal ?
Ah ben, c'est très clair, on est à moins 80%.
Toujours encore aujourd'hui, moins 80%.
J'ai le chiffre de hier. Hier, on est à moins 78%, pour être très précis avec vous.
Comment vous voyez l'avenir ?
L'avenir pour la marque Fauchon, tout va bien, tout ira bien. C'est une marque mythique, c'est une marque légendaire qui a passé la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, les crises 1, 2. Il y a même dans les années 80, le magasin qui a pris feu avec des désastres colossaux pour la marque. Et la marque est toujours là, plus présente que jamais. On a un projet d'hôtel d'ouverture à Kyoto. On a des magasins qui ouvrent à l'international. On va lancer l'école Fauchon en 2021, en 2022, suivant le...
C'est-à-dire que là, très concrètement, il faut que vous trouviez un repreneur aujourd'hui. Il faut que vous trouviez des investisseurs.
La stratégie de Fauchon, c'était quand même, on a quand même un peu envahi la place de la Madeleine. On a 8000 m² place de la Madeleine. On a un peu mis tous nos œufs dans le même panier. On a l'hôtel qui est là, qui est ouvert en septembre 2018, qui fonctionne très bien. Il y a le grand café Fauchon. Il y a la boutique de thé, il y a un magasin au 24-26 et un autre magasin au 30. Et on se dit que là, surtout avec tout ce qui s'est passé ces derniers temps, il serait plus intéressant de limiter notre risque et d'ouvrir aussi, de se déployer dans Paris par le biais peut-être de partenaires, effectivement, c'est une possibilité très, très forte, d'ouvrir d'autres magasins à Paris et de se rapprocher de notre clientèle finalement phare qui nous suit depuis...
Les gens ne viennent plus à vous, vous allez donc aller à eux. C'est ça l'idée, si on la résume très simplement.
Effectivement, effectivement.
Est-ce que l'idée, c'est aussi de se dire, on a eu les grèves, on a eu les gilets jaunes, on a aujourd'hui le Covid, la France est peut-être un pays trop risqué et il faut qu'on se développe beaucoup plus à l'international sans quitter totalement la France.
L'international, pour nous, c'est très important puisque 80% du chiffre d'affaires de Fauchon est réalisé à l'international. Mais le cœur de métier, je veux dire le savoir-faire, l'excellence à la française, on la retrouve à 100% à Paris et en France. Donc on ne pourra pas se dire on fait un croix sur la France ou sur Paris, jamais.
Si vous n'avez pas de touristes étrangers qui reviennent dans les mois à venir, un hôtel comme le vôtre va se trouver en grande difficulté puisque les Américains ne peuvent pas revenir, on ne sait pas quand est-ce qu'ils vont revenir. Beaucoup de pays étrangers ne sont pas autorisés à revenir encore en France. Les clientèles business vont peut-être déserter pendant des mois et des mois. Comment on tient ?
Écoutez, on est le 2 juillet aujourd'hui. On a ouvert l'hôtel le 1er juillet. On a pris le pari de réouvrir alors que tout le monde reste fermé et beaucoup de nos concurrents sont toujours fermés et le seront encore jusqu'au mois de septembre au moins. On a pris le pari de réouvrir au 1er juillet et on se rend compte que on a quand même beaucoup de clients français. La première journée, on a un petit peu moins de 20 chambres sur une première journée. Alors effectivement, quand on a 54 chambres, au total, mais une première journée à 20 chambres, c'est plutôt encourageant. Le client n'ayant pas beaucoup de choix sur Paris, après, c'est sûr que des négociations sur les loyers sont en cours, il va falloir travailler au mieux. On a essayé de limiter les coûts un maximum et de gérer au mieux.
Et on arrive à garder son personnel quand c'est ça, ou inévitablement, vous êtes obligé aujourd'hui de dire à vos équipes, on va être obligé de licencier.
Le vrai point, c'est l'instant T. C'est la situation aujourd'hui. Quelle va être la situation dans un mois, dans 2 mois, dans 3 mois ? On n'a malheureusement aucune visibilité sur la suite. On ne sait pas quand ça va s'arrêter. Est-ce qu'on est au début? Est-ce qu'on est à la fin? Est-ce qu'on est au milieu? Donc il faut gérer le jour, il faut gérer le mois, il faut prendre les bonnes décisions maintenant. Et il faut des fois, effectivement, prendre des choix difficiles pour préserver l'entreprise, préserver un maximum d'emplois et préserver la marque Fauchon.
Ce que vous voulez dire, c'est qu'il pourrait y avoir des licenciements, mais vous allez essayer de les limiter au maximum pour essayer de faire perdurer le groupe.
On va effectivement essayer de sauver un maximum d'emplois et sauver l'entreprise.
Eh bien, merci beaucoup, Samy Vichel, le président de Fauchon, d'avoir été notre invité ce soir. On se retrouve demain, 22h20 sur Europe 1.
À demain, Emmanuel Duteil. Dans un instant, on jette un œil sur les unes de vos quotidiens. Quels sont les sujets que nos confrères et consoeurs de la presse écrite ont choisi de mettre en avant? A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1.
Voici donc ce que vous découvrirez demain à la une de vos quotidiens. On en parlait en ouverture du journal. Emmanuel Macron qui fait la une des quotidiens régionaux auxquels il s'est adressé, auxquels il a répondu aux questions. Aujourd'hui en France, qui choisit cette citation, la rentrée sera difficile. Et c'est la même citation qui est retenue notamment par Ouest France. La rentrée sera dure, il faut s'y préparer. Le Figaro choisit aussi d'axer sa une sur le président. Macron veut maintenir le cap, titre le journal. Au terme d'un mois de consultation, le chef de l'État a précisé les contours du dernier acte de son mandat. Le Figaro qui précise, un remaniement est prévu d'ici mercredi prochain. Dans 20 minutes, destination patrimoine. À l'amorce des vacances d'été, le quotidien fait lui le point sur ses destinations françaises et qui devraient être prisées des touristes en cette période de pandémie. Et on n'en a pas fini avec le Covid. Hein. Aux États-Unis d'ailleurs, hein, les Échos s'y intéressent. Aux États-Unis, l'épidémie hors de contrôle, titre les Échos. Le journal revient sur la situation sanitaire catastrophique et sur l'économie américaine qui lutte pour tenir. Près de 5 millions d'emplois ont été créés, certes, mais, prévient le journal, l'embellie pourrait être de courte durée. L'international qui intéresse également Libération. Libération qui titre avec Hong Kong la peur. La peur car des centaines d'arrestations et une réduction drastique des libertés. C'est l'entrée en vigueur mardi de la nouvelle loi sécuritaire qui a balayé le principe d'un pays, deux systèmes. Désormais, la Chine continentale étend son pouvoir et son système totalitaire à Hong Kong. Et en une, il y a cette photo d'un manifestant à terre, regard rivé sur l'appareil photo, encadré de bottes de militaires et de soldats. Et puis il y a également pour demain, on revient aux annonces d'Emmanuel Macron, l'opinion et qui va cibler l'un des grands chantiers d'Emmanuel Macron, il l'a annoncé, c'est la jeunesse. Les jeunes, ce qui attend la génération Covid, titre l'opinion. Le gouvernement compte présenter d'ici à la fin juillet, au sein de la troisième loi de finances rectificative, des mesures pour encourager l'embauche des jeunes à la rentrée de septembre. Enfin, j'insiste et j'attire votre attention sur la croix qui choisit pour une Sainte-Sophie, le combat d'Erdogan. On parle de la basilique Sainte-Sophie du côté d'Istanbul, un monument qui est classé, qui était d'abord une basilique, qui est devenue une mosquée avec la conquête ottomane et que Recep Tayyip Erdogan aimerait revoir, voire redevenir une mosquée pour affirmer son soutien. C'est l'histoire d'un combat historique, d'un combat politique et de la volonté du président turc de s'ériger en modèle et en nouveau monarque d'un empire ottoman qui serait en train de revenir sur le devant de la scène internationale. Voilà donc pour ce tour d'horizon très varié des unes de vos journaux que vous retrouverez demain dans vos kiosques. Et c'est le moment pour moi de souhaiter une très belle soirée pour vous à l'écoute d'Europe 1 et une très belle soirée aussi à vous, Olivier Delacroix. Bonsoir Olivier.
Bonsoir Simon.
Bon, tout va bien pour vous, vous êtes prêt?
Écoutez, je suis à chaque fois ravi de m'asseoir et de voir que l'heure est arrivée et que nous allons entamer cette libre antenne.
Avec vous et avec les auditeurs qui vous appellent bien sûr au 39 21.
Exactement, je vous dis à tout à l'heure pour le flash à 23h.
À tout à l'heure.
À tout à l'heure.